Rebonjour, mes chers amis. Agréable de vous retrouver pour continuer ce partage sur le thème si important de la force et de la faiblesse actuelle de notre Église post-conciliaire. Nous avons jusqu'ici parcouru les deux premières parties de l'exposé. Nous consacrerons cet après-midi aux deux autres. Mais avant de nous remettre résolument au travail, je me permets ici une parenthèse qui m'est venue à la suite de certaines questions, de certaines réflexions entendues lors de la dernière pause café. Je ne voudrais pas, mes chers amis en Église, que parce que j'ai le courage et l'audace d'interpeller l'ensemble des pasteurs et des bergers et des leaders spirituels que nous sommes, donner la moindre prise à des interprétations ou à des critiques ou à des réactions de sévérité. Au contraire, c'est dans l'amour de Dieu que je trouve ma foi, mon audace, mon amour fraternel suffisant pour me demander et me permettre de parler en vérité et charité à cette heure du renouveau de l'Église. Et je voudrais que personne n'oublie que nos pasteurs et bergers et leaders spirituels, ceux-là même, comme je le disais cet avant-midi, qui tentent d'expliquer la baisse de votre croyance, de votre pratique ou de votre témoignage chrétien par toutes ces pressions souvent malédifiantes du monde moderne, que eux aussi, ils ont baigné dans cette atmosphère souvent polluante et dévalorisante de notre société moderne. Alors comprenons-les bien, pardonnons-leur et aimons-les eux aussi, car je vous assure, pour me baser sur certaines confidences que je reçois, que ceux de ces pasteurs ou bergers ou leaders qui se trouvent plus ou moins heureux dans leur ministère n'ont jamais voulu en venir à ça et souffrent d'y être beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous savez, quand je parlais de la nécessité de ces pasteurs énergisés et énergisants, je vous l'assure, à quelques petites exceptions, très rare, rarissime, au moment de l'ordination sacerdotale ou épiscopale, de la consécration religieuse, tous ont voulu être un autre Jésus-Christ. Ce n'est que sous les pressions de l'extérieur et peut-être le manque d'alimentation spirituelle qu'au lieu d'être un autre Jésus-Christ, ils sont devenus un autre que Jésus-Christ. Je sais que tous ceux qui ont été ordonnés et consacrés, au moment même où ils ont posé ce geste avec la grâce du Seigneur, ils se sont posé la vraie question, c'est-à-dire, à qui je dis oui? Et ils l'ont dit oui au Seigneur. Ce n'est qu'avec l'usure du temps, parfois la suractivité, la négligence, que cette question s'est transformée et peu à peu, ils ont cessé de savoir à qui ils disent oui et ont commencé à dire à quoi je dis oui. Et cela s'est transformé. J'en sais quelque chose parce que depuis que cette interpellation « Église, évangélise-toi toi-même » encore davantage est sortie, que de gens me disent « Oui, mais ce que vous dites, là, Monseigneur, vos idées, là, ça va changer quoi? » Voyez? On est devenu maniaque et obsédé par le quoi. Ma réponse est très simple. Je dis, la question n'est pas « ça va changer quoi? » mais « ça va changer qui? » Depuis Vatican II, on a été obsédé par les quoi et les pourquoi. L'heure est venue où il faut se redemander, ou se demander, ça va changer qui l'Église? Et ça va agir pour qui et par qui? Et c'est ça que je vous demande de considérer, et je ferme la parenthèse, et nous passons immédiatement à la troisième partie. Je pense qu'on a travaillé passablement fort cet avant-midi. On va prendre un petit congé au début de cette deuxième cassette, et là, je vous invite à reprendre le feuillet. Sans trop se fatiguer ou se précipiter, on va regarder certaines de ces images, car je vous dis que, après que le choix a été complété face à ces illustrations, nous nous sommes réunis et communautairement, nous avons réfléchi, partagé, prié pour que se dégage de ces images tout l'enseignement que le Seigneur voudrait bien nous donner. Alors, je n'aurai pas le temps, évidemment, d'entrer dans le détail, mais permettez-moi de partager avec vous un certain nombre de ces réflexions qui nous sont venues. Allons à l'illustration numéro 4, à ce barrage et réservoir de LG3. Voici une série de réflexions-enseignements. Vous voyez, quand on regarde ce réservoir en haut du barrage, on a une impression de grandeur, d'espace illimité, d'immensité. Vous voyez, on n'en voit qu'une partie sur cette illustration. Mais ce réservoir a 2460 km². Et la digue que l'on voit, on n'en voit qu'une partie, elle a pratiquement 4 km de long. Eh bien, face à ça, mes amis, je voudrais qu'on pense que lorsqu'on est face à Dieu, son réservoir de grâce est encore plus infini, si je peux ainsi dire, qu'il met à la disposition de toute l'Église une infinité de grâces qu'on ne pourra jamais épuiser. Les grâces de Jésus, les mérites de tous les saints, les saintes, les élus du ciel, l'Église militante. C'est immense. Il a prévu tout ce qu'il fallait pour énergiser et rendre énergisant tous les chrétiens et transformer le monde. Pensons, deuxième réflexion, que ce réservoir d'eau, un peu comme le réservoir de grâce du Seigneur, est un don gratuit de Dieu. Il ne nous impose pas pour avoir le courant électrique de créer l'eau. Il la fournit. Il nous demande seulement de la capter, de nous donner la peine de la capter. Il a tout prévu par les lois de la nature pour que cette eau nous vienne et revienne et se renouvelle en abondance. Ainsi en est-il de ses grâces. Troisième réflexion, ce barrage qui contient le réservoir crée ce qu'on appelle une hauteur d'eau, c'est-à-dire une colonne d'eau, une profondeur d'eau, si vous voulez. Et plus la colonne d'eau est haute et profonde, plus la colonne d'eau exerce de pression et de puissance quand elle passe dans la turbine. C'est donc la profondeur du réservoir, et non l'étendue du réservoir, qui donne la puissance de l'eau qui entre dans les turbines. Il en est ainsi de la vie spirituelle. Ce n'est pas l'étendue et la quantité des moyens ou des exercices spirituels, mais la profondeur que cela creuse en nous qui compte. On peut aller de réunion de prière en réunion de prière, de messe en messe, de chapelet, de retraite, et rester un chrétien très étendu en surface, mais nullement en profondeur spirituelle. Au contraire, à mesure que sa vie spirituelle s'approfondit, la pression, comme celle de l'eau, augmente et s'exerce dans tous les sens de son être, de sa vie, de ses activités. Quatrième réflexion qui m'est venue, Quand on regarde un réservoir comme celui-là, là, de LG3, on le sait bien que toute cette eau, ou la même eau, ne passe pas dans chacune des 12 turbines. Mais chacune, tout en recevant une eau différente, à travers des débits d'eau différents, toutes les turbines reçoivent une charge, une pression et une puissance égale à celle des autres. C'est évident qu'à l'entrée du tunnel qui conduit à la turbine, il y a une porte individuelle. On peut ralentir l'eau qui entre dans la turbine numéro 2, on peut l'augmenter dans celle numéro 4. Mais au point de départ, tout le monde, toutes les turbines, ont une chance égale. Il en est ainsi en Église, mes amis. Au point de départ, nous pouvons tous jouir à chance égale de la puissance du réservoir de grâce que le Seigneur met à la disposition de son Église. Nous avons donc, notons-le bien, une chance égale de devenir des saints et des saintes bien différents l'un de l'autre. Une cinquième réflexion qui est intéressante. Pensons à l'aspect communautaire de ce réservoir. Voyez, 12 turbines réunies pour utiliser le même réservoir et le même barrage. Ces turbines n'obtiendraient jamais un tel rendement chacune si elles devaient trouver leur eau, avoir leur réservoir, avoir chacune leur barrage. Et la puissance de l'une, dont jouit l'une, ne prive pas l'autre. Il en est ainsi en Église. Comme il est ridicule dans nos façons souvent de procéder, quand chacun s'obstine en pastoral ou ailleurs à aller seul de son bord, faire bande à part. Quelle illusion que de vouloir sauver l'Église, la rénover, l'animer en s'isolant d'elle. Et en ne recourant qu'à ses petites ressources à soi, ses moyens limités, son petit barrage et ses rapides à soi en cascade. Je vous invite maintenant à jeter un coup d'œil à droite, en bas de la digue, à droite de la centrale, sous le barrage. On voit là une section de terrain un peu dégarnie d'arbres. Eh bien, ça nous rappelle là, l'ampleur des travaux requis. Les travaux préparatoires et entretien, toute la machinerie qu'il a fallu mettre sur place pour construire, et que cela n'est pas arrivé sans effort prolongé, c'est pas sorti de terre du jour au lendemain. Eh bien, toute œuvre de rénovation de l'Église va demander des efforts, va demander de l'application. Nous pensons que le Seigneur va tout nous équiper pour la réussir, cette rénovation. Enfin, une dernière réflexion, car on pourrait en faire jour et nuit. Contemplons à nouveau ce vaste réservoir. Imaginons-en toutes ses dimensions. Imaginons également tout ce qu'il contient. Eh bien, mes amis, pensons un instant, recueillons-nous là. Pensons à l'immensité de ce réservoir de grâce que notre Père d'amour, son Fils et leur Esprit nous offrent. Il ne suffit pas de regarder là une preuve de son existence et de sa bienveillance pour nous, mais arrêtons-nous aussi à imaginer jusqu'au fond de ce réservoir toutes les richesses enfouies, son amour inouï, sa miséricorde sans borne, son intérêt extraordinaire pour chacun d'entre nous qu'il veut rejoindre par son énergie, sa puissance, sa sainteté. Tout cela, Dieu l'a mis dans un réservoir et a dit à son Église, serre-toi-en. Or que tout cela soit accueilli et passe en nous, ne peut pas ne pas nous changer du tout au tout. Notre qualité d'être changée, c'est ensuite toute notre façon de penser, d'agir et de réagir qui se transforme. Et notre être, transformé et transporté en lui, c'est toute notre lecture de tout et de tout ce qui change à son tour. Une meilleure lecture des événements du monde actuel, une meilleure lecture de la bonne nouvelle, la parole de Dieu devient de plus en plus vivante et actuelle. Et c'est seulement après tout cela qu'on pourra opter pour les meilleurs moyens de transport, de transmission et d'adaptation. Car alors ce n'est plus moi qui vis, juge, pense et agis, mais c'est lui qui vit, juge, pense, agit et réagit en moi. Et je trouve les vraies priorités, je trouve les bons procédés, je sais comment organiser les célébrations, je sais comment porter l'énergie de Dieu au monde d'aujourd'hui. Le pouvoir hydroélectrique, on le voit bien, se construit en suivant le sens du courant, en descendant du réservoir à la centrale et en allant en aval, mais pas à l'inverse. Ainsi, l'Église, si elle veut se rénover, mes chers amis, elle doit remonter et partir de sa source, avec un grand S. Et lui accueillit, et à l'œuvre en nous d'abord, comme individu et communauté d'Église, ensuite se déverser dans tous les coins et recoins du monde. Ça fait réfléchir, hein, quand on se met là à voir comment la nature nous parle pour mieux comprendre la surnature qui nous interpelle. Et que de chances ratées souvent. Passons maintenant, on peut prendre aussi bien l'illustration 1, 4 encore, ou 5, à sa guise. Je veux réfléchir sur ce que nous suggèrent les barrages, car il y a là deux réflexions, enseignements, qui peuvent s'appliquer d'emblée à l'Église. Si on regarde un barrage, là, peut-être que ceux qui vont entendre la cassette ne verront pas mon geste, mais vous, ici dans la salle, vous pouvez le repérer. Un barrage évoque l'idée d'un effort d'accueil. Et je tends mes deux bras de chaque côté en remontant dans une forme concave pour ne rien échapper. C'est ça un barrage. C'est l'attitude de bras qui s'étendent pour dire au réservoir, viens, on t'accueille, on ne veut rien perdre. Et on les étend aussi long que c'est nécessaire, pour que rien ne contourne le barrage. L'eau qu'on voit ici dans ces réservoirs ne resterait pas là, ne formerait pas un réservoir permettant de dégager une puissance hydroélectrique si les humains n'érigeaient pas un immense barrage solide et suffisant pour accueillir toute cette eau. Eh bien, la grâce du Seigneur, comme l'eau, nous est offerte gratuitement. Encore faut-il nous discipliner pour l'accueillir, la capter, harnacher cette force divine mise à notre disposition. Donc, un barrage hydroélectrique, c'est comme les bras ouverts et étendus pour accueillir et concentrer le pouvoir disponible. Un barrage doit être suffisant et grand, solide, adapté, capable de résister aux pressions. Ainsi, l'Église se doit de trouver un nouveau style de vie, une programmation, une discipline de fonctionnement qui assure en tout premier lieu au plus haut niveau et au point de départ, à la ligne de départ, cet accueil de la puissance divine qui veut passer et agir en elle. Et hommes et femmes d'Église, tournés vers lui, doivent consacrer le meilleur d'eux-mêmes, de leur temps, de leurs efforts, à d'abord, tel un barrage, accueillir sa grâce à Christ. Une deuxième idée, quand on regarde le barrage de LG3, numéro 4, et qu'on le compare au barrage de l'illustration numéro 1, on voit qu'il y a, dans ce domaine-là, différents types de barrages selon les circonstances. Les ingénieurs font ce qu'on appelle des barrages à voûte et contrefort, et d'autres barrages, ce qu'ils appellent des barrages poids, en terre ou en enrochement. Eh bien, dans notre vie spirituelle, c'est à chacun et à chacune de prévoir une programmation de vie qui lui permet de capter le mieux et le plus, selon sa vocation, active, cloîtrée, semi-cloîtrée ou contemplative dans l'action, l'énergie que le Seigneur veut passer à travers lui ou à travers elle. Allons-nous-en maintenant, car c'est fort intéressant, à la dernière illustration, numéro 7, où il s'agit, et vous pouvez le voir ici dans le grand tableau qui est sur le théâtre, cette grande illustration d'un mètre carré, le couple turbine-génératrice. Qu'est-ce que c'est que l'image nous suggère, cette image de turbine? La turbine, c'est notre être, à chacun et à chacun. Cœur, esprit, corps et activité. Et quand on a une vie intérieure, le réservoir des grâces du Seigneur passe puissamment en nous, en notre turbine, nous génère et régénère sans cesse, et nous rend à notre tour régénérateur pour les autres. On devient de plus en plus spiritualisé et sanctifié, et donc spiritualisant et sanctifiant autour de nous. Vous voyez qu'il y a une turbine, un axe numéro 4, qui rejoint au-dessus la génératrice, et les deux fonctionnent simultanément. La turbine reçoit l'eau, fait tourner l'axe, et met en branle la génératrice qui produit l'électricité. Eh bien, quand le couple turbine-génératrice est bien établi, fonctionne bien, que les deux tournent ensemble, c'est le cas pour nous, lorsque notre vie, notre être, si actif soit-il, se régénère et régénère autour de nous. Et normalement, si tout va bien, il n'y a aucune raison pour laquelle un pasteur, un berger, un leader s'appauvrit, se vide, s'essouffle ou se crève en exerçant son ministère. Car il est continuellement énergisé et ressourcé par le Seigneur. Au contraire, lorsque la turbine et l'axe et la génératrice de son être spirituel fonctionnent très bien ensemble, le pasteur, le berger et le leader spirituel se ressourcent au fur et à mesure, s'enrichissent, s'épanouissent, se vitalisent et s'apaisent. Cela ne trompe pas, mes amis. Les soi-disant surmenés, les crevés, ceux et celles qui se désarment en faisant le bien, s'époumonnent, s'époustouflent et s'épuisent, il n'y a pas à se tromper. Ce sont habituellement des gens qui ne puisent pas leur énergie spirituelle à la bonne place, au bon réservoir. Ce sont des gens qui marchent sur leur propre diesel, sur leur générateur de secours, générateur maison, d'urgence. Mais, pensons ceci, il peut arriver que l'axe qui relie la turbine et la génératrice casse. La turbine continue à marcher, à fonctionner, mais pas la génératrice. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de beaucoup de bergers, de pasteurs et de leaders. Quand on les regarde aller, on ne peut pas s'empêcher de dire « ça turbine ». Mais ça ne génère pas. Et cet axe, vous savez, il est fragile. Il peut se briser facilement par surménage ou par surménagement. Par esprit de suffisance, par orgueil, par négligence, par sous-alimentation spirituelle. Une troisième réflexion qu'on peut faire, remarquez, c'est que la turbine doit être proportionnée à la génératrice et la génératrice à la turbine. Comme notre alimentation spirituelle doit être proportionnée à nos activités et à nos responsabilités. Plus on a de responsabilités et d'activités, donc plus notre turbine est grosse, est grande, plus normalement la génératrice génère puissamment de grâce autour de soi. Alors il est donc erroné de prétendre que parce qu'on est bien occupé, parce qu'on a beaucoup de ministères, qu'on a beaucoup d'activités, qu'on ne peut pas prendre le temps de laisser rentrer du réservoir toute l'eau nécessaire pour passer à travers notre turbine et générer en proportion. Je reviens simplement en disant, y a-t-il un homme dans notre Église qui a une plus grosse turbine d'activité que Jean-Paul II? Les responsabilités et les activités que ce Saint-Père assume, c'est extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui pourrait alors dire, mais je n'ai pas le temps, moi, de tendre les bras vers le réservoir du Seigneur pour qu'il passe puissamment en moi, c'est bien lui, à comparer avec nos petits ministères. C'est le contraire. Plus nos responsabilités sont grandes, plus nos activités sont multiples, plus la grâce du Seigneur est à notre disposition. Jetons rapidement un coup d'œil sur l'illustration qui n'a pas besoin de tellement de commentaires, l'illustration numéro 6. L'évacuateur de crue, le trop-plein du réservoir, eh bien, elle nous montre clairement cette multitude de grâces qui passe complètement à côté de l'Église. Ces grâces, je voudrais faire un jeu de mots, ces grâces qui sont évacuées parce qu'on n'a pas cru. Finalement, l'avant-dernière réflexion, regardons la salle des commandes, l'illustration numéro 5. L'Église, comme une centrale hydroélectrique, est un ensemble de turbines. Et cette salle que l'on voit ici dans l'illustration, cette salle de commandes, nous rappelle l'importance de l'unité dans la diversité. Voyez, chaque génératrice, la jaune-orange, a son autonomie. Mais toutes bénéficient des bienfaits du communautaire. En amont, en haut de la centrale, elles bénéficient d'un même réservoir et d'un même barrage. Nous l'avons dit il y a un instant. Et en aval, par en bas, elles bénéficient également des mêmes lignes de transmission. C'est l'aspect communautaire, l'aspect unité de l'Église qui regroupe ensemble toutes les diversités, c'est d'une suprême importance. Nous y reviendrons d'ailleurs sur le communautaire. La prolifération des réservoirs et des barrages en Église, où chacun fait les siens de son bord pour le plaisir d'avoir sa petite usine ou centrale d'œuvre à lui, est un appauvrissement, un non-sens et un ridicule certain. Et là, Nous allons terminer cela en revenant à l'illustration numéro 2. Et je vais lire avec vous, si vous avez vos bonnes lunettes ou peut-être aurez-vous besoin d'une loupe. Regardez ce qui est marqué à côté du chiffre 2. Le transport. La tension électrique là, est élevée afin de transporter l'électricité jusqu'à la région où elle sera utilisée. Et à 3, distribution, la tension est ensuite abaissée par étapes afin de distribuer l'électricité aux abonnés. C'est sûr et certain que si on ne mettait pas la haute tension, ça ne se rendrait pas aux villes. Ou inversement, si on gardait la haute tension pour rentrer ça dans les domiciles, tout sauterait. Il y a deux étapes dans la transmission, donc. C'est aussi vrai du rôle d'un pasteur, d'un berger, d'un prédicateur. Quand il enseigne, il doit donner le message de Jésus, le message du salut, à haute tension, tel qu'il est, sans le diluer, sans l'atténuer. Ce n'est pas à nous d'interpréter Jésus. Ce n'est pas à nous d'argumenter au nom du monde face à Jésus. Jésus savait ce qu'il nous a dit. On doit le prendre et on doit le dire tel quel. Et c'est ce qui fait la force de Jean-Paul II et de tant d'autres pasteurs énergisés et énergisants. Alors que beaucoup d'entre nous commencent à diluer le message, à l'interpréter, à mettre de l'eau dans le vin. Le Seigneur nous avait dit un jour dans le discernement communautaire, « Ne mettez jamais d'eau dans mon vin. Le malin n'a aucune prise sur mon vin, il en a sur votre eau. » Et c'est chaque fois qu'un pasteur n'a pas le courage, n'a pas la grâce, n'a pas l'amour de ses fidèles au point de leur dire la vérité avec charité, que son homélie accroche, que sa prédication est handicapée, que son ministère est paralysé. Mais le même Jean-Paul II, qui a le courage de dire que l'avortement n'est pas permis, que le divorce est à dénoncer, que l'euthanasie est à combattre, et il le dit sans l'ombre d'un doute et sans l'ombre d'une restriction. Je suis sûr, et vous l'êtes comme moi, quand il s'assoit au parloir et qu'il a devant lui quelqu'un qui vient de participer à un avortement ou qui vient de se divorcer, il ne l'assomme pas avec le message de Jésus. Là, comme distributeur, devient un pasteur, un adaptateur, non pas du message, mais du dialogue et de la grâce du Seigneur qui passe. Rien ne l'empêcha de dénoncer les assassinats publics, et on le sait, rien ne l'empêchait d'aller dans la cellule de celui qui a tenté de l'assassiner. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, Jean-Paul II ne lui a pas donné une prédication. Il lui a donné de l'amour. Et ceux qui disent que quand à ce moment-là, on accueille un divorcé, on accueille quelqu'un qui a fait un avortement ou qui pratique l'euthanasie, on risque d'être complice, de sembler approuver son attitude, eh bien on n'a rien compris. Pas plus que en allant dans la cellule de ce jeune homme qui a voulu le tuer, le Saint-Père a voulu dire « Tire-moi dessus ». Il y en a peut-être qui ont conclu que c'était une manière d'obtenir des audiences privées. Mais ce n'était sûrement pas l'intention de Jean-Paul II. Et voilà, mes chers amis, quelques réflexions sur cette partie. Et passons immédiatement à la quatrième et dernière partie de cet enseignement. Car je sais que c'est toujours la même question. Comment tout cela se fera-t-il? Eh bien, mes amis, sans l'ombre d'un doute, je le proclame avec toute l'ardeur de mon cœur. dans l'amour du Seigneur, l'Église doit se donner ou se doter de pasteurs énergisés et énergisants, et cela sans délai et avec succès. Comment cela se fera-t-il? Bien entendu, il y a à escompter la réponse sans équivoque des individus concernés. C'est trop évident. Mais cela ne suffira pas. Il faut absolument que l'Église, en tant que collectivité, en fasse sa priorité. Ne pas tourner le dos à sa présence au monde, mais tourner sa face à la présence au Seigneur. Le calibre ou le calibrage spirituel accru et maintenu des pasteurs ne peut être que le fruit d'une concertation de tous les fidèles en Église. L'Église aura les pasteurs qu'elle veut et qu'elle se mérite seulement si elle en assume la responsabilité et l'effort. À mon avis, deux thèmes principaux, vieux comme le monde, pour ne pas dire vieux comme l'Église, doivent donc reprendre la vedette au hit parade de l'Église. Notre grave erreur, mes frères et mes sœurs, a été souvent, pour ne pas dire toujours, de les avoir pris pour acquis. Parce que c'est évident, parce que c'est si souvent évoqué dans nos discours de circonstance. On les a peut-être laissés passer aux oubliettes. Le premier, c'est un appel et un rappel à la sainteté. Et le second, un appel ou un rappel à la véritable communauté en Église. Un appel à la sainteté. Je sens le besoin, je ne sais pas si je capte des ondes à travers le monde, mais il faut d'abord commencer par ne plus avoir peur du mot sainteté. Vous savez qu'en certains lieux, pour ne pas dire milieux, et même hauts lieux, avons-le, parler de sainteté effarouche, désécurise, crispe même. Et dire aux gens qu'on désire devenir un saint, S-O-I-N-T, et pas seulement S-O-I-N, et qu'ils doivent le devenir eux aussi, ça surprend, ça inquiète, ça nous rend suspects. Dans certains secteurs même, du carrefour, de l'Église, le mot sainteté fait sourire et on s'en moque, on s'en fiche. C'est démodé, c'est un retour en arrière. J'ai été marqué quand j'étais séminariste par une définition de Don Marmion, qui est très courte, très simple. Et je l'évoque ici à nouveau. Qu'est-ce que c'est que la sainteté pour lui? C'est rien d'autre que l'épanouissement complet, progressif, le développement plénier de cette première grâce qu'est notre adoption divine, grâce qui nous a été donnée au baptême et par laquelle nous devenons enfants de Dieu et frères du Christ. Quand on a été baptisé, on a reçu ce certificat. On devient enfant de Dieu et frère de Jésus pour l'éternité. Vouloir devenir saint, c'est tout simplement tirer de cette grâce initiale d'adoption qui nous est tombée du ciel pour les faire fructifier tous les trésors et toutes les richesses qu'elle contient que Dieu nous en fait découler. C'est ça, en substance, vouloir la sainteté. Le Christ a été le modèle de notre filiation divine, mais il a en plus mérité qu'elle nous soit donnée et a établi lui-même les moyens par où elle nous arrive. Or, elle nous arrive d'abord en direct et ensuite en communauté chrétienne. Donc, cette réalisation de cette grâce, depuis que Jésus l'a rendue possible, est l'œuvre de Dieu et on n'a qu'à le laisser faire. C'est une œuvre qui a été plus spécialement attribuée au Saint-Esprit car il est responsable des œuvres d'amour. Il est le plénipotentiaire de l'amour divin, le chargé d'affaires des œuvres d'amour du Seigneur. C'est saint Paul qui nous dit dans l'Épître aux Romains, « Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » En bref, devenir saint, sainte, c'est laisser l'Esprit d'amour nous rendre, parce qu'il nous aime, de plus en plus dignes, de plus en plus vrais, enfants de Dieu. L'Esprit Saint agit avec la grâce sanctifiante qui nous rend notre nature apte à agir surnaturellement, la déifie, pour ainsi dire, et il dépose en nous ce qu'on appelle des habitudes, des vertus chrétiennes, qui élèvent les puissances de notre âme, et par des dons privilégiés appelés dons du Saint-Esprit, il nous dispose à ce que nous devenions plus dociles et souples à ces inspirations de l'Esprit. Et voilà, c'est ça que devenir saint. C'est laisser le Saint-Esprit et toutes les grâces qui nous sont données nous perfectionner, perfectionner notre admirable organisme surnaturel par lequel Dieu nous appelle à vivre de la vie divine, dès ici-bas, en attendant de le vivre en plénitude pour l'éternité. Vous ne m'en voudrez pas, puisque je m'appelle Charles de mon prénom, d'avoir un faible pour mon saint patron, saint Charles Borromée. Et je lisais récemment dans une homélie de Jean-Paul II, donnée à Milan, à l'occasion du 400e anniversaire de la mort de saint Charles, qui a été un réformateur d'Église à son époque, trois choses. Saint Charles Borromée disait que la réforme de l'Église doit commencer par le témoignage de bons pasteurs et de bons prêtres. Nous devons marcher en tête, disait-il. Il a dit également, et Jean-Paul II citait Paul VI, une des notes dominantes de l'épiscopat de saint Charles Borromée fut son intention de créer une sainteté du peuple, une sainteté collective, et de rendre sainte toute la communauté ecclésiale. Jean-Paul II ajoutait à un autre endroit de son homélie, saint Charles, et c'est un exemple pour nous, était homme de fruits et non de fleurs, de faits et non de paroles. Et on me fait signe que c'est le temps de se dégourdir pour tourner la cassette. Nous reviendrons dans un instant pour suivre ce thème de l'appel à la sainteté.